Le 8 janvier, en entrant dans la chambre 106, j'ai pensé entre les tuyaux à une phrase de Pascal. C'était un vrai cliché, mais j'avais beaucoup lu Pascal dans mon adolescence, à cet âge où l'on oublie à peu près rien et où l'on croit à peu près tout, bon ou mauvais, de ce qui vous tombe sous la main. On le répète comme un mantra, et quand 35 ans plus tard, on se retrouve à l'hôpital après un attentat, c'est cela qui vous vient. Deux points, ouvrez les guillemets. Tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas rester au repos dans une chambre. Point, fermez les guillemets. Il me faut donc commencer par avouer que, malgré les souffrances, les angoisses, les cauchemars, les attentes, les déceptions, les visions de mes plaies, l'enchaînement des blocs, la sensation de n'avoir plus aucun avenir en dehors de la chambre, j'ai éprouvé un certain bonheur à résider ici, sans téléphone, sans télévision, presque sans radio, sous surveillance policière permanente, avec des visites systématiquement filtrées. Le sens du combat, c'était simplifié. Philippe Lançon est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son livre Le Lambeau. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec ce que Philippe Lançon appelle sa morphine. C'est la variation Goldberg numéro 21 de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Glenn Gould. D'ailleurs, quand on l'écoute attentivement, on l'entend qui a Anne sur son piano. On a hésité entre l'interprétation par William Kempf ou celle de Glenn Gould, que vous citez indifféremment.
Oui, parce que j'ai écouté les deux. Je connaissais très bien celle de Gould, par laquelle j'étais venu d'ailleurs au piano de Bach, comme beaucoup de gens qui sont allés vers cette musique dans les années 80. Voilà, j'avais 20 ans et c'est Gould qui nous a, enfin beaucoup d'entre nous, familiarisés avec le piano de Bach. Par contre, l'interprétation de Wilhelm Kempf, qui est plus aérienne, peut-être moins profonde, je vais employer un cliché, plus mozartienne d'une certaine façon. C'est une amie qui me l'a apporté quand j'étais dans la chambre d'hôpital pour que j'aie une autre interprétation. Et donc effectivement, à ce moment-là, elle a progressivement, dans la chambre, chassé celle de Gould. Chassé n'est peut-être pas le bon mot, disons qu'elle a pris sa place paisiblement. Justement parce qu'elle était peut-être plus transparente, vous voyez, il y avait moins de poids, et j'imagine qu'à ce moment-là, j'avais plus besoin de ça. Par ailleurs, Kempf était un pianiste que j'aimais beaucoup pour Beethoven, avant tout, mais aussi une interprétation de Beethoven qui, aujourd'hui, peut paraître à certains datée, parce qu'elle est... Il y a quelque chose de transparent chez Kempf, en fait. Et donc, j'avais en revanche beaucoup écouté Kempf dans Beethoven et aussi dans Schubert. Et voilà, donc j'étais content de retrouver par hasard, hein, finalement, dans cette chambre où une série de cadeaux arrivait, hein, comme pour beaucoup de patients. Hein. Et voilà, donc je me suis mis à écouter ça et à le faire écouter aussi beaucoup aux soignants qui passaient, non pas par force, mais parce que, en fait, c'était devenu comme un rituel. Au moment en particulier des changements de pansements qui étaient très longs. Donc, il faut se mettre d'abord un peu de plaisir. Il n'y avait pas de douleur dans ces changements de pansements, pas particulièrement. Mais disons que c'est un moment qui était parfois assez fastidieux, parce que c'était des pansements assez compliqués à faire pour les infirmières. Et donc, je trouvais que être enveloppé non seulement dans ces pansements, mais que les pansements eux-mêmes et les gestes qui les accompagnaient soit enveloppé par cette musique, ne pouvait que faire du bien à tout le monde, et en particulier à moi.
Votre livre, Philippe Lançon, est organisé, structuré, comme une partition musicale. Il l'est aussi comme une cohabitation entre plusieurs territoires successifs que vous allez devoir apprivoiser. La musique est doublement présente, à la fois dans la conception architecturale de votre texte, mais aussi parce que votre texte est scandé par la musique.
Oui, alors... En fait, je pense, pour prendre un exemple, au moment où on écrit, enfin, en tout cas moi, quand je n'ai pas forcément conscience de ni de ce que je suis en train de faire, ni de la manière dont je le compose. Même si là, j'avais quand même une idée très précise quand je m'y suis vraiment mis des chapitres, du nombre de chapitres, de ce qu'il y aurait dedans. Vous voyez, il y avait le scénario en quelque sorte était donné par l'histoire. Voilà, beaucoup
mais
plus
vous
que...
dites à un moment dans votre livre, Philippe Lançon, que vous avez commencé et que ça ne vous plaisait pas, qu'il a fallu recommencer justement pour trouver de l'aérien.
Oui, j'avais pas le ton. Il y avait quelque chose quand j'ai commencé les premiers essais en 2016. Je pense que j'étais encore trop dans la réparation physique. Et c'est d'ailleurs ce que m'a dit à l'époque ma chirurgienne, Chloé. C'est-à-dire, elle m'a dit, comment pouvez-vous penser que vous allez pouvoir écrire maintenant, puisque vous êtes encore en plein dedans? Je suis encore dedans au moment où je vous parle, mais quand même beaucoup moins. Donc, de ce point de vue-là, la chirurgie a été aussi une très bonne école, c'est-à-dire une école que la plupart des écrivains éprouvent et connaissent, qui est celle de la distance au motif. Qu'il s'agisse d'une histoire contée réelle ou d'une histoire contée par l'imagination. Et donc, il m'a fallu un certain temps pour être à la bonne distance et pour aussi pouvoir probablement raconter certaines choses, à commencer par l'attentat lui-même. Mais si on revient à la musique, ce qui pour moi maintenant est clair, c'est que le début du livre, qui n'est justement pas l'attentat, mais la veille de l'attentat, effectivement, c'est une ouverture musicale, mais elle n'est pas forcée, c'est-à-dire que ça s'est passé comme ça, mais je n'étais pas forcé de commencer là, j'aurais pu commencer l'avant-veille, un mois plus tôt, la seule chose que je ne pouvais pas faire, c'était commencer par l'attentat, parce que ça, j'aurais trouvé ça presque vulgaire, et en tout cas très très déplacé, très indélicat vis-à-vis de mes amis morts et puis de leur famille, et puis même vis-à-vis de l'expérience que j'avais vécue, si on peut parler de délicatesse vis-à-vis de ce qu'on vit, mais il y avait une question de tact. Donc il faut une ouverture, et l'ouverture c'était effectivement la dernière scène de la vie d'avant. Il se trouve qu'elle était au théâtre, donc elle m'a permis d'entrer dans cette histoire très particulière de l'attentat et de l'hôpital, qui est aussi une scène de théâtre, par certains côtés.
Vous dites la vie d'avant, Philippe Lançon. Il y a la vie d'avant, il y a la vie de pendant, c'est celle que vous nous racontez dans Le Lambeau, et puis il y a peut-être la vie d'après qui se dessine dans les dernières pages, même si ces dernières pages sont endeuillées par la triste réalité.
Oui, en fait, le livre se referme quand même sur le 13 novembre, donc j'étais à New York, et effectivement, il aurait pu s'arrêter à d'autres moments, parce que par exemple, il y a une assez longue histoire qui traverse aussi ce livre, et que je n'ai pas racontée dans ce livre, qui est liée à un pianiste célèbre, pour qui on a organisé, qui a organisé avec des amis à moi, sans me le dire, un petit concert privé, dans un appartement privé, alors que j'étais encore à l'hôpital des Invalides, assez peu de temps avant ma sortie. Donc ça a été une sorte de surprise et comme une scène qui aurait pu être la scène finale du livre. Et vous voyez, cette histoire que je vous raconte n'est absolument pas dans le livre. Donc pourquoi est-ce que j'ai par exemple pas fini là et fini le 13 novembre ? Eh bien je pense que c'est beaucoup plus lié à la composition du livre, vous parlez de composition musicale, que à la vie vécue proprement dite, vous voyez ? C'est-à-dire, je devais finir sur la chose qui était la réplique accentuée de l'événement qui avait fait que Charlie inaugurait les plâtres. Et maintenant, qui est ce monde dans lequel nous sommes, de toute façon, pour un temps indéterminé.
Nous allons écouter Emmanuel Chabrier, Habanera, interprété par Alexandre Tarot. Nous vous avons demandé, Philippe Lançon, comme à chacun de nos invités, vos choix musicaux, figurez évidemment Glenn Gould ou William Kempf pour Bach, mais aussi Alexandre Tarot, Emmanuel Chabrier. Pourquoi ?
Bien, Alexandre Tarot parce que c'est un grand pianiste et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais aussi, qui a participé d'une manière très discrète à ma reconstruction. à la fois par ses disques et par sa présence. Emmanuel Chabrier, parce que j'aime particulièrement ce disque qu'il a fait il y a maintenant quelques années déjà, parce qu'il y a chez Chabrier, comme on l'a entendu là, je pense, c'est un alliage pour moi presque parfait de légèreté et de mélancolie. Et là, c'est une habanera, donc une danse, voilà, et ça me rappelle toujours l'univers hispanique que j'aime énormément, et particulièrement, évidemment, la Cuba et la ville de la Havane, même si les habaneras sont plutôt espagnoles, et mais enfin, tout ça est lié. Et donc, ça fait trois très bonnes raisons d'aimer ce disque, et particulièrement cet air.
À quel moment avez-vous décidé d'en écrire ?
D'en écrire.
Sur ce qui vous est arrivé ?
J'ai plutôt commencé par des portraits, en fait, des chirurgiens, des infirmières, des soignants. Voilà, parce que c'est en 2016, donc dans un univers, des portraits de gens qui constituent un univers dans lequel j'étais vraiment encore, plus à plein temps, mais quand même très très régulièrement, et parfois encore à plein temps.
Il a fallu vous éloigner pour pouvoir commencer à écrire.
Oui. Ça, oui. Mais bien sûr, quand j'étais à l'hôpital, donc entre les périodes où je ne pouvais pas parler physiquement et le fait que j'étais quand même assez vite fatigué, ce que je faisais, c'est que j'écrivais des mails. Voyez.
Et avant, il y avait eu l'ardoise magique qui a été très importante dès
le
début.
Et il y a eu l'ardoise qui me permettait de communiquer très concrètement avec les soignants et les amis, mais dont j'avais fait un objet. On peut écrire des choses étonnantes sur cette ardoise, et avec d'autant plus d'amusement et parfois d'audace qu'elles vont disparaître dans la minute qui suit. Donc il y avait un plaisir dont je parle, je crois, particulier à écrire les choses qui me passaient par la tête à ce moment-là. Telle une sorte de vieux sage, vous savez, parce qu'on a l'impression d'y être très très vite quand on passe du temps à l'hôpital comme ça, de finir dans les rôles du Yoda, là, vous savez, dans La Guerre des Étoiles, avec des oreilles en pointe là. Parfois, je me souviens, j'ai eu le sentiment, peut-être faux, un peu comme dans un rêve, de trouver des choses, des phrases lumineuses qui correspondaient véritablement à qui était la conjonction de la pensée, de la sensation et du moment. C'était peut-être aussi faux que dans un rêve où on croit avoir rêvé d'une histoire géniale avec des phrases géniales, puis au réveil, si par hasard on a noté en demi-sommeil dans la nuit, on s'aperçoit que c'était complètement idiot ou sans intérêt. Mais en tout cas, voilà, il y avait ça.
Des visions.
Sauf qu'elles étaient échangées. Je me souviens très très bien de quelques amis avec qui j'échangeais des choses comme ça dans ce dialogue très très particulier, qui est très lent, puisque en face de moi, j'avais des gens qui pouvaient parler. Peut-être moins vite que je ne suis en train de le faire, mais qui parlait quand même assez vite. Et moi, évidemment, il fallait que je digère comme une sorte de ruminant ces phrases. Et puis, je mettais du temps à écrire, même si j'étais devenu assez efficace dans la réponse. Et Chloé, ma chirurgienne, disons que j'étais décidément aussi bavard à l'écrit que j'avais pu être dans les moments où je pouvais parler. Et de découvrir ces phrases. Et puis, hop, je les effaçais et elles étaient destinées donc peut-être à ce qui était le mieux pour elles, à l'oubli.
Où étiez-vous dans ces moments-là ? Dans quelle contrée de l'âme ?
Écoutez, j'étais vraiment très concrètement déjà dans l'espace où j'étais, mais cet espace était très habité parce que il y avait une photo qui est très importante pour moi d'une petite cubaine que je ne connaissais pas, enfin que j'avais entrevue du temps d'un reportage qui était face à moi et qui me regardait depuis sa montagne de la Sierra Maestra au milieu des fleurs avec un regard extrêmement profond. Elle m'a apporté cette gamine une silencieuse, une consolation phénoménale.
Saviez-vous, Philippe Lançon, que vous étiez autant aimé ?
Très difficile, je sais. Je pense aussi, j'ai été, je sais pas à quel point j'ai été aimé par mes proches, ça c'est certain. Par beaucoup de soignants aussi, je l'ai senti. Mais je pense aussi que je les ai beaucoup aimés et que je les aime encore beaucoup. Et par ailleurs, il y avait la situation, c'est-à-dire que dans ces cas-là. Il y a quelque chose dans la situation qui est aussi plus fort que les gens présents. Et si une dynamique vertueuse se met en place, et je pense que dans mon cas, autour de mon cas, ça a été ce qui s'est passé. Effectivement, c'est plutôt les bons sentiments qui petit à petit s'imposent, vous voyez, qui... Et c'est pas de la niaiserie, hein. C'est vraiment parce que dans les bons sentiments, la situation était très dure. Et elle était très dure pour tout le monde, pas que pour moi. Et malgré tout, je pense qu'il y a effectivement... Donc voilà, donc j'ai sans doute été très aimé, mais la situation a fait que ces sentiments ont pu vivre et s'échanger de manière effectivement très, très intense.
À l'intérieur de votre tête, car nous sommes dans votre tête quand on lit votre livre, Philippe Lançon, on a l'impression qu'on est vraiment avec vous, à l'intérieur de vous. Il y a par moments des espèces de circonvolutions de la mémoire. Et je pense particulièrement à ce passage où vous évoquez le souvenir de votre grand-mère, qui elle-même a subi, il y a longtemps déjà, un accident de voiture qui fait qu'elle a été blessée, comme vous, au visage. Comment cette mémoire qui devait être plus ou moins endormie dans un coin de votre cerveau s'est-elle réveillée ?
En fait,
c'est l'écriture elle-même provoqué cette remémoration.
C'est-à-dire que j'y ai pensé parce que c'est des choses dont j'avais beaucoup parlé avec mon père, enfin dont mon père m'avait parlé puisque c'était ma grand-mère paternelle et puisqu'il était dans cet accident de voiture qui a eu lieu pendant la guerre, qui a été vraiment horrible. Et effectivement, on l'a laissée pour morte et elle a été opérée beaucoup plus encore que moi, si c'est possible, et dans des conditions évidemment beaucoup plus dures que moi. Et elle n'en parlait jamais, comme les gens de cette génération qui, somme toute, c'est même pas se plaignaient pas, ne parlaient pas. Donc moi, par exemple, enfant, adolescent, je ne savais rien de tout ça. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai su beaucoup plus tard. Par contre, là, je m'y suis intéressé. Et donc, dans un premier temps, oui, j'y ai vaguement pensé quand j'étais à l'hôpital, ou songé, je ne sais pas quel est le mot exact, mais j'étais quand même... vous savez, les pensées étaient dérivantes. Vous voyez, c'était toujours à quelque part entre des moments de lutte très concrets et des états de rêverie, alors au départ plus ou moins morphiniques, vous voyez, enfin. Donc, j'y ai forcément pensé à certains moments. Mais après, effectivement, c'est par l'écriture que toute cette remémoration a pu s'effectuer, sortir de cet état dérivant. Pour devenir quelque chose de beaucoup plus concret. Je me souviens très très bien du moment où tout à coup j'ai ma grand-mère est littéralement entrée dans le chapitre où il en est question et au début de ce chapitre et ce n'était pas prévu. Vous voyez ça, j'en ai un souvenir très précis. Et donc à partir de là, j'ai fait un travail d'écrivain, c'est-à-dire j'ai essayé de me remémorer l'état, ce que j'ai toujours fait pour ce livre, les états successifs dans lesquels j'étais, comme si j'étais un autre, qui aurait pu être d'ailleurs aussi une créature d'imagination. Et puis, par ailleurs, et là j'avais des éléments précis, j'avais en particulier les mails que j'envoyais de l'hôpital à cette époque. Et d'autre part, après, j'ai repris des vieux carnets que je tenais bien avant ça, et j'ai retrouvé tout ce que mon père m'avait dit de ma grand-mère un jour où nous marchions dans les Pyrénées. Et nous avions fait une très très longue marche, et qui à la fin était très inquiétante. C'est l'une de ces fois, c'est arrivé à beaucoup d'entre nous et à beaucoup d'auditeurs, où j'ai senti que je devenais le père de mon père. C'était lui le marcheur en montagne, mais la descente a été très très dure dans un pierrier infinie, très très longue, et j'ai vu mon père faiblir, ayant peur de tomber, on était seul, très loin de tout, et c'est après ça qu'il m'a parlé très très longuement de l'histoire de ma grand-mère, et en particulier de cet accident. Et là, je me souviens très bien que je suis rentré, et j'ai fait ce que font la plupart des gens qui tiennent des journaux ou des écrivains, j'ai absolument tout noté, parce que là, je ne voulais pas l'oublier, mais ça, c'était quand même 10 ans avant.
Nous allons écouter la voix de Philippe Roth. Il va évoquer ses origines. C'est une archive INA, 16 octobre 1999.
Le frère de Sabat meurt en tant qu'Américain. Le Suédois Lvov, lui, sa souffrance est celle d'un Américain. Je ne crois pas qu'il y ait de distinction dans mon esprit entre un juif et un Américain. Le fait d'être juif n'empêche pas d'être un Américain. C'est-à-dire qu'on n'est pas différent des autres. Moi, je me suis jamais senti différent des autres, pas pendant un quart de millième de seconde. Alors, la Deuxième Guerre mondiale, c'était une guerre américaine, ce n'était pas une guerre juive. Mes cousins qui ont été enrôlés dans l'armée de terre, mon frère était dans la marine, ce n'était pas en tant que juifs qu'ils ont été enrôlés, c'était en tant qu'américains. Et quand ils se sont battus sur les plages du débarquement, et lorsqu'ils ont survécu au jour le plus long, c'est en tant qu'américains encore qu'ils se sont battus, c'est en tant qu'américains qu'ils sont morts. Et Sabbath, d'une certaine façon, il est libéré de tout cela. Ça, c'est le revers de la médaille. Il est entièrement libre de toute contrainte. Il n'a aucune obligation sociale. Il est libéré du désir de plaire. C'est ça, la liberté elle-même. Et si l'on est délivré du désir de plaire, alors on se trouve soi-même. On ne se retrouve pas face à une vision utopique de soi-même. Si on est réellement libéré du désir de plaire, alors on devient Mickey Sabbath. Alors, est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça ne vous plaît pas? Peu m'importe si cela vous plaît ou non. Tout ce que je sais, c'est que c'est cela qui se produit.
Vous avez publié très récemment, Philippe Lançon, un très bel article au moment de la disparition de Philip Roth. Vous y parlez de votre propre père, qui était né la même année que Philip Roth, et vous dites, avec une très grande liberté de ton, quel rapport vous aviez avec ce Philip Roth. À quel point vous avez eu du mal pour certains livres. Personnellement, je ne comprends pas votre difficulté à lire La Tâche, mais il y en a d'autres où vous avez tout de suite été pris dans ce désir d'écriture. Et dans ce qu'on vient d'entendre de Philip Roth, il y a quelque chose qui vous lie aussi, en dehors de votre père, Philip Roth, et vous, et votre amour de lecteur, car ce livre est aussi comme une sorte d'offrande à ce que ça veut dire lire, pour pouvoir continuer à vivre. En tout cas, c'est aussi comme ça que je l'ai lu, et je ne dois pas être la seule. Mais il y a aussi quelque chose que vient de dire Roth, c'est que il a commencé à véritablement comprendre qu'il écrivait quand il s'est libéré du désir de plaire. Et je crois que vous, c'est aussi la même chose.
Ah, écoutez, en tout cas, c'est une phrase très profonde, ce qu'il dit à propos de son livre Le Théâtre de Shabbat, l'idée. Mais il faudrait probablement ajouter que peut-être il faut avoir tout le génie de Roth pour pouvoir se libérer comme ça du désir de plaire. C'est-à-dire c'est son personnage qui s'en... Mais on voit bien que derrière, Roth aussi, lui-même, en tant qu'écrivain, veut arriver à une puissance d'imagination, de plaisir, de créativité, somme toute, qui le libère absolument des contraintes qu'imposerait un désir de plaire, qui serait finalement réservé à des talents plus modestes. Et donc là, c'est pour ça, malheureusement, je pense que ce désir de plaire, comme d'autres, je le traîne encore avec moi, et que probablement je le traînerai jusqu'à la fin de sa vie. Je pense que c'est un travail énorme d'arriver à l'état de Mickey Sabbath, que peu de gens sont capables de faire et qui, à mon avis, n'est même pas d'ailleurs souhaitable parce que ça les détruirait. Vous voyez, parce que, pour finir, en revenir à Philip Roth, ce que j'ai voulu montrer dans l'article, mais il en est question aussi dans le livre, c'est que, enfin montrer, non, mais c'est faire sentir, parce qu'aujourd'hui, la lecture, c'est quelque chose de, à la fois d'extraordinaire et qui peut être difficile. Et l'expérience de l'ennui, l'expérience de la résistance d'un auteur dont on sent qui vous emporte malgré tout, existe, vous voyez. C'est-à-dire que on rentre dans une matière créative, une matière imaginaire très forte, et parfois, moi, ça a été souvent le cas avec Roth, ça résistait. Et en même temps, je voyais très bien à quel point cette matière était puissante et m'emportait, même s'il m'arrivait d'arrêter le livre. Là, encore récemment, j'ai recommencé du coup à lire « Pastorale américaine ». Alors d'un côté, je prenais des notes, etc., et tout m'arrêtait. Et en même temps, à un moment donné, je me suis dit « j'en ai assez ». Mais je ne sais pas exactement pourquoi. Et c'est pas très grave, parce que ce que je sais, c'est que ce que j'en ai lu, là encore, de nouveau, stylo en main, pas pour un article, pour moi, je ne l'oublierai pas. Vous voyez, c'est-à-dire ce personnage du Suédois, je comprends rien à ce qu'il raconte du football américain et tout ça, du baseball, et ça n'a aucune importance. Il y a en particulier chez Roth, des retournements, des manières de jouer avec son lecteur, parce que toujours il veut lui montrer que la réalité qu'il croyait voir n'est jamais celle qu'il a. Alors Proust l'a montré à sa façon aussi, et comment et de quelle
Proust,
façon.
Proust, c'est votre doudou, hein, l'hôpital.
Oui, c'est le doudou. Oui, c'est absolument le doudou, et ça le reste. Ça l'était avant, ça le reste après. Alors là, il y a une continuité, si vous voulez. Hein. Donc c'est Proust, il est là depuis mon adolescence, et il est toujours là maintenant. Donc vous voyez, mais c'est pareil, c'est-à-dire c'est des gens. Des écrivains évidemment totalement différents, mais pour qui il y a un côté balai masque qui est très très fort. Et comme on vit forcément, on est des êtres sociaux, on vit parmi les masques et on en porte soi-même. C'est toujours extrêmement plaisant de. Et je trouve surtout quand on est jeune de tomber sur des écrivains qui vous disent il n'y a que des masques, il faut que tu les traverses comme on traverserait des paravents. Il faut aller au travers de ça et t'enfoncer de plus en plus là-dedans. Et c'est des auteurs qui aident à ça et en même temps, avec un certain orgueil aussi, communiquent, aux lecteurs, un orgueil parfois exagéré de croire qu'il est très intelligent. Vous voyez ? Parce que cette sensation très puissante de dominer un monde, de comprendre que les gens ne sont pas ce qu'ils sont, que derrière on va en apprendre... Après, on le, surtout à 20 ans, quoi, on le reverse sur le monde qui nous entoure. Toi, tu prétends être ça, mais en fait, tu n'es pas ça. Et puis, on croit qu'on devient une sorte de sage avant l'âge, en quelque sorte. C'est aussi ce que ces auteurs, ces deux-là en particulier, permettent de faire, avec les risques du métier.
À propos de masques, Philippe Lançon, vous nous... Dites, vous écrivez des pages absolument incroyables quand vous avez l'autorisation de la part de vos médecins de sortir un tout petit peu de l'hôpital, d'aller vers l'extérieur. Et votre visage n'est pas recomposé encore complètement. Donc vous ne pouvez sortir, j'imagine aussi pour éviter les microbes, qu'avec un masque. Et vous nous dites, alors ça aussi c'est dingue, vous nous dites que vous êtes seul. Vous avez les mains dans les poches, vous traversez des rues de Paris pas trop loin de l'hôpital, et en fait vous êtes assez content de regarder les regards qui se portent sur vous.
Oui, parce que c'est une expérience quand même vraiment étrange, parce que quand on a passé des mois et des mois comme ça à l'hôpital, et dans ces conditions-là, le moment où on sort, en tout cas au moment où moi je suis sorti, vraiment, c'est les conquérants du Nouveau Monde. Hein. C'est-à-dire, la rue de Bourgogne, à côté des Invalides, devient presque aussi grande, boutique après boutique, que le continent américain entier. Voilà. On a les épopées qu'on peut, mais c'en est une. Hein. Chaque mètre gagné, je pouvais marcher. Mais simplement, je me retrouvais dans un monde qui n'était plus le mien. Il fallait que je le discrètement, que je le reconquière. Donc je marchais avec mon masque. C'était l'été, donc avec mon chapeau pour me protéger. Le masque protège à la fois des microbes, du soleil, puisqu'il y avait des cicatrices partout et très très fraîches encore. Donc il faut absolument et totalement protéger les cicatrices. Et donc j'avais l'habitude de ce masque et les regards que je croisais, oui, alors c'est très intéressant parce que ceux qui vous regardent le plus directement et sans aucune barrière, ce sont les enfants. Donc j'adorais regarder les enfants, je mettais une petite supérette où j'allais pour les premières fois acheter des petits yaourts liquides qui étaient une des seules choses que je pouvais commencer à ce moment-là à boire et... Comme moi-même, j'avais eu l'impression de refaire le parcours depuis l'enfance. J'avais une grande gratitude envers ces enfants qui, eux, allaient droit au masque. Ou par hasard, si j'enlevais mon masque une fois à l'intérieur, à la cicatrice, avec un air de « mais qu'est-ce qu'il a celui-là » Mais vraiment, en fait, qui aurait pu me choquer, mais c'était exactement le contraire. Et les adultes, alors il y a ceux qui font semblant de ne pas voir. Et puis, comme souvent les adultes, là, beaucoup d'entre eux, simplement, ils ne regardent pas. Il ne regarde pas ce qu'ils croisent. Donc, assez bizarrement aussi, il y avait une sorte d'anonymat à certains moments, alors que vraiment quand même, on se balade avec un masque comme ça, ça se voit. Mais il y a tellement d'adultes qui ne regardent pas ce qu'il y a autour d'eux et qui parlent ou qui font leur geste d'adulte, d'acheter des choses, etc. Mais les enfants, d'abord, ils sont plus petits, alors ils ne sont pas au même niveau. Et puis eux, j'imagine qu'ils ont plutôt le droit de se taire, souvent. Vous voyez, enfin, en tout cas, ils sont vraiment beaucoup plus dans l'observation. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu.
Dans votre livre, Philippe Lançon, il y a plusieurs héros et héroïnes. On a parlé de votre père, on n'a pas parlé de votre mère, on n'a pas encore parlé de votre frère, parce que ce livre est un ode aussi à l'importance de la famille étroite en cas d'explosion de la réalité. Vous avez enduré l'inimaginable, vous ne pouviez pas imaginer ce qui vous est réellement arrivé. Et ben voilà, ils étaient là, et ils ont toujours été là tout le temps. Il y a vos amis, il y a le personnel soignant. Et puis, parmi le personnel soignant, il y a quand même une fille qui s'appelle Chloé et qui, là, est une véritable héroïne. Est-ce qu'elle a lu votre livre ?
Oui, elle l'a lu. Oui, oui. Elle l'a lu et je crois qu'elle en a été très émue. Elle m'a envoyé un texto que je ne citerai pas. Et donc,
elle n'est pas du genre expansive, hein, manifestement.
Non, elle n'est pas expansive, mais elle est très efficace dans la communication de ses émotions par litote, vous voyez. Donc j'ai compris qu'elle en avait été très touchée. Elle savait de toute façon que j'écrivais ce livre, et puis et donc elle avait peur. Enfin, elle m'a jamais fait aucune remarque avant sur quoi que ce soit. Mais elle m'a dit au moment où le livre est sorti que elle avait une certaine appréhension à le lire, ce qu'on peut bien comprendre parce que il s'est quand même passé beaucoup de choses dans cette chambre. Entre le, vous voyez, c'est pas des rapports. Le rapport patient-soignant quand il devient aussi intense et aussi long. Il y a forcément des échanges qui débordent du cadre strict des soins, donc de l'affectivité, et aussi quand le soignant rentre chez lui le soir, il rentre avec le poids du patient. Et inversement, le patient, ce que je raconte, devient une sorte de nourrisson égoïste et affamé, qui veut avoir le patient pour lui, le soignant pour lui. Et donc moi, je voulais au maximum Chloé pour moi. Chloé, c'était l'apparition de Chloé était toujours le moment qui m'apportait du soulagement, même quand elle m'apportait pas de bonnes nouvelles, puisque jamais elle ne m'a, comme on dit, bourré le mou, quoi. Enfin, vous voyez, elle a là-dessus, comme enfin tous les chirurgiens que j'ai pu croiser ont une éthique, hein, qui est que on ne dit rien dont on ne soit sûr à 100%. Mais donc, comme il y a très peu de choses dans la reconstruction dont on soit sûr à 100% au moment où, on ne dit pas aux patients ce qu'ils voudraient entendre. C'est-à-dire que tout va bien, qu'il va mieux, que la cicatrice qui est en train de se désunir va se réunir demain, etc. La consolation ne passe pas par là. Elle passe par... enfin, pour moi, elle est passée, je trouve, par l'appel à l'intelligence et par les explications. Vous voyez, c'est-à-dire une forme de rationalité qui était très importante parce qu'on est déjà dans une position donc le plus souvent allongée avec, il faut excuser les auditeurs, les couilles plus ou moins à l'air à cause des pansements, etc. etc. On n'est pas dans une position extrêmement valorisante. Et donc c'est quand même très important d'avoir en face de soi des soignants qui font appel à votre sensibilité et à votre cerveau pour comprendre ce qui vous arrive et qui vous explique. Vous voyez. Mais par ailleurs, je comprends très bien qu'il y ait des patients qui ne veuillent pas entendre ça. Il y a une chose qui est vraiment pour moi essentielle, c'est de ne jamais parler à la place des autres et de ne jamais prétendre que c'est comme ça. Ça a été comme ça pour moi, mais je connais des patients qui ne veulent pas entendre parler exactement de l'état dans lequel ils sont, surtout évidemment s'ils vont mal, et je le comprends.
Ben vous décrivez Philippe Lançon, notamment aux Invalides, quand vous allez faire ce long séjour, que vous aviez des voisins, mais ces voisins qui avaient enduré des calvaires, eh bien, quelquefois, ils avaient personne qui venait les visiter, personne.
Oui, parce que c'était des gens aux Invalides, quand on y est, souvent, on y est pour longtemps, et parfois pour toujours, hein. Puisqu'il y a aussi l'équivalent d'une sorte de maison de retraite, vous voyez. Et donc, et on sait comment ça se passe dans les maisons de retraite, même si celle des Invalides est très bien. Elle accueille surtout des héros de guerre et des gens comme ça, enfin des militaires. Mais effectivement, j'ai vu des gens qui étaient là depuis... en particulier, je me souviendrai toujours d'un architecte qui était assez jeune et qui a été progressivement abandonné par sa femme, puis par ses amis. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de moi, ce que j'ai vu, c'était un homme absolument charmant, mais quelle était son histoire, quelle était sa psychologie, ça, je n'en sais rien exactement. Mais ce que j'ai vu, c'était cette espèce de stoïcisme qu'il avait dans l'abandon dont il faisait l'objet. Il ne s'en plaignait pas. C'était un constat... qu'il m'avait fait, de même que je me souviens qu'on échangeait des livres et il était toujours au même endroit dans les jardins, dans son fauteuil roulant, et moi toujours sur le même banc. Et donc, et il y avait aussi un vieil Algérien, un vieil Harki, qui lui aussi était toujours sur le même banc. Alors, vous voyez, il y avait... mais eux, ils étaient quand même très seuls, alors que moi, je ne l'étais pas. C'est-à-dire, vous voyez, mais ce moment-là, où je les voyais le matin dans les jardins, ou parfois l'après-midi, c'était des moments où j'y allais seul. Et donc, j'étais tout à fait réceptif à leur solitude, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je sentais très, très profondément, en me disant à tout moment, ça pourrait t'arriver ou ça t'arrivera peut-être. Et espère que tu seras comme eux, à ne pas te plaindre.
Dans votre livre, Philippe Lançon, on est convié à descendre sous l'eau, comme si on était dans le même sous-marin que vous, et à entendre tout. Les bruits sont aussi très importants. Entre les cris de certains patients et les chants des oiseaux, manifestement, vous choisissez le chant des oiseaux.
Oublier le cri des patients.
Sans oublier le cri des patients, mais vous avez décidé que le chant des oiseaux vous intéressait plus que le cri des patients. On dit, c'est un cliché de la littérature, « je est un autre ». En tout cas, moi, mais je suis pas toute seule, je pense que nombreux sont les auditrices et les auditeurs à avoir parcouru le même chemin en lisant votre livre. Je crois que je ne suis pas la même après avoir terminé votre livre. Est-ce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre à vos propres yeux? Et est-ce que vous coïncidez avec celui que vous étiez avant?
En fait, je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est que celui dont il est question dans ce livre est un autre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est moi, effectivement, mais que j'ai vécu d'une certaine façon quand j'étais dans une sorte d'état second, c'est le cas de le dire, au moment où je l'ai vécu, et puis que j'ai revécu en écrivant presque comme une créature de fiction, tout en sachant que, autant que ma mémoire et mon travail soient précis, et j'ai essayé de l'être au maximum, tout ce qu'il y a là-dedans, je l'ai vécu. Il n'y a rien d'imaginaire. Absolument rien. Mais en même temps, j'avais pas besoin de ce travail d'imagination puisque j'avais le sentiment d'avoir traversé une série de mondes, celui de l'attentat puis celui des hôpitaux. Il y a eu plusieurs mondes dans les hôpitaux, suivant les mamans. Et à chaque fois, un nouveau personnage prenait la place du précédent. Vous voyez, en fonction des pressions auxquelles il était soumis, et donc de l'imaginaire qui se développait en lui et du rapport qu'il avait à son passé, de un rapport à l'avenir, il n'en avait aucun, vraiment aucun. Et ça a été l'une des sources de conflits avec des personnes de mon entourage. J'étais incapable de projeter, comme on dit, quoi que ce soit. Et donc voilà, c'est-à-dire j'ai créé un personnage à partir de ce que j'ai vécu.
Vous avez pu vous relire ?
J'ai relu, il a fallu le faire, relire et couper aussi d'ailleurs un peu, parce que je pense que voilà, il y avait un moment donné dans certains chapitres où je commençais à patauger, justement, où je recommençais à être happé par la situation que je décrivais. Et il faut être happé par cette situation, mais pas trop non plus. Parce que sinon, on s'y enlise comme dans un sable mouvant. Et on commence à... Et c'est la fluidité et la tenue de l'écriture qui en pâtit. Vous voyez, qui commence à se relâcher terriblement. Donc ça, voilà. Après, non, là, depuis... une fois, j'ai pour une raison précise, j'ai relu un passage récemment. Et je me suis dit, mais c'est toi qui as écrit ça. C'est-à-dire, point d'interrogation. Je me sens presque plus proche du personnage que j'ai été dans cet hôpital que de celui qu'il a écrit ensuite. Vous voyez, ça doit paraître compliqué à comprendre, mais c'est vraiment c'est une création à partir de ce que j'ai vécu, mais simplement où tout est vrai, quoi.
Vous évoquez à plusieurs reprises ce livre de Thomas Mann, La Montagne Magique. Le personnage principal de La Montagne Magique s'appelle Hans Castorp. Il va visiter son cousin, Joachim, qui est dans un sanatorium. Il y va comme ça. Il y va pour faire une petite visite et pour passer un petit bout de temps en tant que membre de la famille. Il pense qu'il va repartir le lendemain. Et comme on le sait, il va y rester. Et je crois que cette référence à la montagne magique est très importante aussi pour comprendre votre livre, Philippe Lançon, parce qu'on se dit que cet univers tentaculaire, mais aussi salvateur, nécessaire et vital pour vous, qu'est l'hôpital, il aurait pu vous enfermer, exactement comme Hans Castorp ne peut plus sortir du sanatorium.
Oui, et j'espère d'ailleurs que le moment où il en sort, comme vous le savez, c'est le moment où la Première Guerre mondiale débute, donc où la boucherie va débuter. Donc j'espère qu'à la sortie de l'hôpital, il y aura autre chose, la sortie définitive, qu'un monde qui, par certains côtés, est quand même très déplaisant aujourd'hui. Mais c'est-à-dire, je pense, pour vous répondre, que très vite, j'ai quelque chose en moi a été les deux personnages, c'est-à-dire Joachim et Hans. J'étais le visiteur qui arrivait comme au Monopoly en visite simple, et puis qui reste, qui se retrouve à la casse-prison là. Et j'étais Joachim très vite, c'est-à-dire celui qui sait qu'il va rester, que l'autre va rester. Parce qu'au départ, ce qui se passe, c'est que Hans est très impatient. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il ne se passe rien. Et puis, quand est-ce qu'on va redescendre? Allez, maintenant tu vas mieux, on va repartir. Et Joachim lui dit, mais pourquoi tu es si pressé de retourner dans le monde d'en bas? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce qui se passe. Tu ne sais pas ce que c'est que le temps de la maladie. Tu ne sais pas ce que c'est que le temps du sanatorium. Et donc, pour moi, le temps de l'hôpital. Et je pense qu'il y avait une sorte de dialogue discret en moi entre ces deux personnages qui cohabitaient et où, progressivement, la partie Joachim transformait l'autre partie en Hans qui restait. Joachim représentant quand même lui qui meurt, hein, et il représente une forme de sagesse, puisque lui, d'emblée, il sait où il est et pourquoi il y est, et il a très très bien compris les codes, et surtout le rapport au temps qu'il y a dans cet univers. Et donc, le patient est dans la montagne magique, et il est important qu'il le comprenne, et comme vous dites, il est important qu'il sache en sortir aussi. Et franchement, ce n'était pas facile. Donc, ça a été l'objet d'une sorte de conflit avec Chloé, ma chirurgienne, puisque elle savait qu'il fallait que je sorte de la montagne magique. Et moi, il y a eu un moment où je ne voulais pas entendre ça. Je voulais y rester. Je voulais devenir Hans Castorp.
Et maintenant, vous vivez où ?
Non, je vis chez moi. Et
avec votre nouvelle bibliothèque?
Oui, avec ma nouvelle bibliothèque, et ma vie a bien changé, et donc l'hôpital est toujours là, hein, j'y retourne très très régulièrement, mais disons que maintenant c'est des séjours éclairs, donc, mais j'y retourne toujours avec plaisir, certainement pas, mais avec une certaine gratitude et toujours un certain allant, parce que je suis finalement toujours content de retrouver, de croiser les infirmières que je connais encore. Finalement, je suis content de les revoir. Et finalement, rien que... Il suffit, on peut parler 30 secondes avec les gens, mais finalement, ce que je suis devenu là, l'homme qui vous parle dans ce studio, c'est aussi leur création, puisqu'ils m'ont aidé à revivre, ils m'ont refait le visage, ils m'ont envoyé. Et donc, c'est bien aussi qu'ils voient ce à quoi je ressemble aujourd'hui, simplement ça.
Ben, je ne peux encore que vous remercier, encore et encore, Philippe Lançon, d'abord d'avoir écrit ce livre, et puis d'avoir aussi accepté de venir en parler. Merci infiniment, et on va se quitter sur un de vos choix musicaux, Ay Mariposa, par le Cubain Pedro Luis Ferrer. Pourquoi ce choix? Et merci déjà.
parce que c'est l'un des derniers airs que j'ai écouté quand j'étais à l'hôpital des Invalides, où j'allais tout seul dans le gymnase le samedi et le dimanche matin. Je commençais à me reconstituer, à pédaler, à essayer de faire un peu d'étirement, des choses comme ça. J'étais tout seul dans le gymnase avec une femme de ménage africaine qui passait de temps en temps. Et là, j'avais le gymnase pour moi. Et donc, je mettais à fond de la musique cubaine parce que je pense qu'il était temps de remettre un peu de soleil là-dedans, quoi. Et en particulier, cet air est assez mélancolique, mais il faisait partie d'un disque qu'on m'avait offert et que j'écoutais énormément dans ce gymnase vers la fin de mon séjour aux Invalides.
Mariposa me retosa la canción junto a la boca y tu imagen me provoca florar en ti, mariposa. Un lamento me retosa como un mar de juramento. En tu figura yo encuentro la existencia de las flores, porque perfecta en amores te siento como un lamento. Porque perfecta en amores te siento como un lamento. Mariposa, cual llorosa canción que en ti se hace calma. Mariposa, cual llorosa canción que en ti se hace calma. Vienes calmándome el alma con tu volar, mariposa. Vienes calmándome el alma con tu volar, mariposa. La libertad de una rosa es vivir en la verdad. Yo sé que hay felicidad en cada flor que te posas. Me lo dijeron las rosas, eres tú su libertad. Me lo dijeron las rosas, eres tú su libertad.
Le livre de Philippe Lançon s'intitule Le Lambeau. Il est publié chez Gallimard. Merci à Claire Destacan qui a réalisé cette émission, qui a été préparée par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazar et Jules Bruxelles, avec les conseils musicaux de Jean-Baptiste Audibert et avec à la technique Jérémy Guillon.